Non, je vais vous parler principalement donc de Thérèse de Lisieux, mais dans cette perspective de la théologie des saints, c'est-à-dire que j'étudie les saints justement comme théologiens. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement les saints en eux-mêmes, mais en tant qu'ils sont les meilleurs miroirs du mystère de Jésus. Et donc, je commence avec cette feuille. Vous avez tout simplement, au début, notre credo de Nicée-Constantinople. Donc, les pères appellent la règle de la foi. Je viens de donner ici une session sur saint Irénée de Lyon. On trouve déjà ce principe, donc le credo baptismal, et pratiquement tous les saints ne font rien d'autre que de le faire resplendir en mettant en lumière plus tel ou tel aspect. Alors, chez Thérèse de Lisieux, bien sûr, c'est le mystère de Jésus. Le nom de Jésus, qu'elle emploie deux fois plus que le nom de Dieu, j'insiste toujours sur le fait que Thérèse est une carmélite bérulienne. Le Carmel de Lisieux était un carmel de tradition bérulienne. Ce qui est caractéristique, c'est qu'elle emploie deux fois plus le nom de Jésus que le nom de Dieu. Et ça, ça vient de Bérulle. J'ai étudié la même chose chez saint Jean Eudes, qui est un des grands disciples de Bérulle. Donc, nous sommes en présence de ce christocentrisme trinitaire. Je dirais que la Thérèse de Lisieux est différente de Thérèse d'Avila, qui, elle, est structurée par le schéma du symbole quicumque, qu'on retrouve d'ailleurs dans la somme théologique de saint Thomas. On a au début le traité de Dieu à Étrine, et à la fin le traité du Christ comme homme. Donc la Trinité et la sainte humanité. Chez Thérèse d'Avila, on le voit plus au sommet, même dans le château intérieur, quand elle parle de cette très haute connaissance de Dieu, vision de la Trinité, vision de la sainte humanité. Or, Thérèse de Lisieux, elle est structurée selon ce schéma plus ancien. Donc, le nom de Jésus chez Thérèse de Lisieux ne signifie pas d'abord la sainte humanité, mais la personne divine du verbe incarné. Et là, donc, au centre de la Trinité, et donc, la perspective qu'on va trouver chez elle est Jésus, donc fils et époux, donc les relations fondamentales, donc ce sont des relations, fils éternel du Père, devenu fils de Marie, Jésus époux de l'Église, et donc j'ai prolongé toujours sur cette première feuille, avec un bref schéma justement concernant Jésus, Marie et l'Église. Donc Jésus au centre de la communion virginale avec Marie et l'Église, en référence à Lumen Gentium 8, Marie dans le mystère du Christ et de l'Église, donc la plus haute lumière sur le mystère de l'humanité homme et femme. Donc on a d'un côté le nouvel Adam, toujours vierge, qui est Jésus, comme fils et comme époux, et en communion avec lui, donc c'est la relation avec Jésus, le Dieu homme, mais la nouvelle Ève, toujours vierge, représente d'une certaine manière toute l'humanité. Donc la relation entre le fils et la mère, la relation entre l'époux et l'épouse, cette communion virginale, à la fois humaine et divine, communion dans l'Esprit Saint, dans la chair et le sang, j'ai mis un petit commentaire que je lis. Cette communion entre le nouvel Adam et la nouvelle Ève est inséparablement dans l'Esprit et la chair, communion la plus intime entre le Fils et la Mère, l'époux et l'épouse, dans l'incarnation et le mystère pascal. Le nouvel Adam, toujours vierge, est Jésus, l'homme-dieu, fils et époux. La nouvelle Ève, toujours vierge, est Marie et l'Église ensemble, la femme mère de Dieu, Théotokos, et épouse de Dieu, Théonymphos. Dans le mystère de l'incarnation, le Fils éternel du Père est devenu vraiment Fils de Marie par l'action de l'Esprit Saint, en recevant la chair et le sang dans son sein virginal. Dans le mystère pascal, l'Église épouse est formée par l'action du même Esprit Saint, dans le côté ouvert de Jésus, comme sa côte. Le mot grec « pleura » signifie « la côte et le côté » en Jean 19 et 20, comme en Genèse 2, dans le récit symbolique de la création d'Ève, dans la tradition des Septante. Jésus donne son corps et son sang dans l'Eucharistie. Alors, nous retournons cette même feuille, donc la grande science des saints sur la terre comme au ciel. Là, nous allons retrouver notre cher saint Thomas. Selon une belle expression de saint Louis-Marie de Montfort, la meilleure théologie de l'Église est la grande science des saints sur la terre comme au ciel. Avec ces trois modalités distinctes mais complémentaires et inséparables que sont la scientia beata, la scientia fidei et la scientia amoris. On peut visualiser cela dans le schéma suivant, en distinguant les points de vue de la connaissance et de l'amour sur la terre comme au ciel, en référence à la somme théologique de saint Thomas, à sainte Catherine de Sienne, au docteur du Carmel et au magistère de Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. Et là je me réfère à ces paroles de Benoît XVI qui m'ont été adressées le 19 mars, à la fin de la retraite. Benoît XVI m'a dit « Vous nous avez montré que la scientia fidei et la scientia amoris vont ensemble et se complètent, que la grande raison et le grand amour vont ensemble, mais que le grand amour voit davantage que la seule raison. » C'est-à-dire que pour moi, ces paroles qui ont été prononcées il y a 12 ans, c'était la confirmation de toute une méthode et un encouragement donc à continuer. Donc, un regard rapide sur ce schéma, donc en descendant, voyez, en distinguant ces points de vue de la connaissance et de l'amour, et cette affirmation de saint Thomas dans la toute première question de la Somme, article 2, hein, ce qui fonde la scientificité, la théologie de la terre, c'est le ciel. Donc l'importance de justement « scientia Dei et Beatorum ». Et alors, « scientia Dei », au plus haut niveau, c'est la vie éternelle de la Sainte Trinité, avec ces trois mots hein, de saint Thomas, tellement cher au Père Marie-Eugène, « verbum spirans amorem », qui exprime le rapport éternel le plus profond entre la connaissance et l'amour, donc c'est la vie même de la Trinité. « De scientia Dei et Beatorum », ce sont les anges et les saints, donc les âmes qui vont la vision face à face, donc qui ont la plénitude de l'amour, de la charité et de la vision, c'est-à-dire savoir absolu, alors que la foi est un savoir relatif, relatif à la vision. Et alors si nous descendons sur la terre, eh bien ce qu'il y a de plus élevé, de plus grand, hein, ce qui est le fondement justement de la théologie, c'est inséparablement les trois vertus, je ne parle plus jamais de vertus théologales, mais de vertus théologiques. Saint Thomas n'a jamais parlé de vertus théologales, virtutes theologicae. Donc, foi, espérance et charité. Hein, et là, la doctrine, un des aspects plus importants de la doctrine de Saint Jean de la Croix, se référant et à Saint Augustin et à Saint Thomas, mais avec une synthèse très personnelle et très originale, se rapporte la foi dans l'intellect, l'espérance dans la mémoire, la charité dans la volonté. Donc, il y a une scientia fidei. Hein, donc, et il y a une scientia amoris, il n'y a pas de scientia spei, parce que l'objet principal de l'espérance, c'est précisément la scientia beata, c'est la vision de Dieu. Et on voit tout de suite la différence, je l'ai souligné, vous voyez que la même charité sur la terre comme au ciel, hein, le traité de la charité dans la Somme est admirable, justement, hein, on est justement dans l'ordre de l'amour absolu, déjà donné en cette vie. On est illimité dans l'amour, il y a la même immédiateté déjà en cette vie qu'au ciel. Alors, on a donc d'un côté cette scientia fidei, elle est principalement cette théologie noétique, intellectuelle, théologie pensée, la scientia amoris, théologie mystique, symbolique et pratique, théologie vécue. Donc, le saint pape Paul VI, en déclarant Thérèse d'Avila et Catherine de Sienne docteur de l'Église, donnait déjà une reconnaissance proprement doctrinale à cette scientia amoris. Quant à Jean-Paul II, eh bien, on a deux documents emblématiques, c'est la Fides et Ratio, où les principaux docteurs cités sont Anselme et Thomas, et la Novum Divino Iniunte, donc qui représente l'autre versant, où il cite Thérèse de Lisieux, rappelant qu'il l'a déclaré docteur de l'Église comme experte dans la Scientia Amoris. Il cite aussi Catherine de Sienne et Inorme, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix comme représentants de la grande tradition mystique de l'Église. Et donc Benoît XVI, ces paroles donc, qui m'étaient particulièrement adressées, hein, la grande raison et le grand amour qui vont ensemble et se complètent. Et j'ai ajouté un petit commentaire sur la terre, la sainteté et la perfection de la charité, de la foi, de l'espérance, mais plus grande est la charité qui ne passera jamais. La même sur la terre comme au ciel, elle croit tout, espère tout, étant la mère, la racine et la forme de toutes les vertus, encore saint Thomas. Elle est le plus grand don de l'Esprit Saint. Dans la balance théologique de la terre, l'Église de la terre, le poids de la scientia amoris est donc supérieur à celui de la scientia fidei. On pourrait dire qu'il est plus scientifique, d'une certaine manière. Tel est le sens des doctorats de Thérèse d'Avila, Catherine de Sienne et Thérèse de Lisieux. La charité est l'amour absolu, dans la parfaite réciprocité du cœur à cœur avec Jésus, en attendant le face à face. Thérèse le dit admirablement dans une de ses lettres. Donc, quand elle parle du Sacré-Cœur, « Le cœur de mon époux est à moi seul, comme le mien est à lui seul. Je lui parle dans la solitude de ce délicieux cœur à cœur, en attendant de le contempler un jour face à face. » Donc la charité donne déjà pleinement le cœur à cœur vers Jésus, comme sur la terre, comme au ciel, dans une totale réciprocité immédiate, la foi ne donne pas encore le face-à-face, hein, en attendant le face-à-face. Alors je passe maintenant à l'autre feuille, vous voyez, mais c'était extrêmement important de commencer avec ceci, donc je dirais les instruments fondamentaux pour moi, pour l'étude, justement la théologie des saints en tant que théologiens, connaisseurs du mystère de Jésus. Donc sur l'autre feuille que nous allons parcourir, synthèse théologique de Thérèse à tous ces donc je laisserai à Marie et à ceux qui le veulent aussi j'ai fait un fichier donc pour ce séminaire avec donc ces deux feuilles font partie de tout un ensemble beaucoup plus vaste comme la somme théologique de saint Thomas d'Aquin l'histoire d'une âme est une des plus belles synthèses théologiques avec le même contenu Dieu et l'homme dans le Christ Jésus voient vérité et vie dans les trois parties de la Somme, comme dans les trois manuscrits autobiographiques qui constituent l'histoire d'une âme, avec la prière au jour de la profession et l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Encore plus synthétique que la Scientia Fidei de Thomas, la Scientia Amoris de Thérèse tient toujours présente la totalité du mystère de Jésus, qui est exprimé en quatre grandes composantes inséparables, avec de continuels approfondissements et des modulations toujours nouvelles. Première composante, Jésus, dans toute la vérité et l'unité de son mystère, la composante christologique. Je le disais déjà, le nom de Jésus est écrit plus de 1600 fois dans les œuvres complètes de Thérèse, deux fois plus que le nom de Dieu. C'est vraiment le soleil qui illumine toute sa vie, comme dans les armoiries du pape François. C'est un splendide christocentrisme, comme celui de Bérulle, beaucoup plus vaste que la christologie de la théologie universitaire, aussi un traité parmi les autres. En Jésus, Verbe incarné, Thérèse embrasse toute la vérité de la foi, sa divinité, en l'attribut divin de la miséricorde, et son humanité, son éternelle communion avec le Père et l'Esprit-Saint dans la Trinité, la création et le salut, l'incarnation et la rédemption, Marie et l'Église, le ciel et la terre. L'amour de Jésus et de tous les hommes en lui est toujours vécu avec Marie et dans l'Église, continuellement alimenté par l'Eucharistie et l'Écriture sainte. Deuxième composante, la communion avec Jésus dans l'Esprit-Saint par la foi, l'espérance et la charité, la composante pneumatologique. Thérèse vit avec une intensité nouvelle et extrême ces trois vertus théologiques qui sont les plus grands dons de l'Esprit-Saint dans l'Église en pèlerinage. Donc ce sont les trois modalités de la grâce du baptême. Saint Jean de la Croix les présente comme l'unique fondement de la vraie vie spirituelle, l'unique moyen de l'union avec Dieu et de la vie mystique. L'avantage de Thérèse, c'est que justement, il n'y a aucun phénomène extraordinaire. En relation donc avec ces trois puissances de l'âme, la foi dans l'intellect, l'espérance dans la mémoire, la charité, je pense que ça c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut retrouver. Et alors dans la sainteté, il y a une unification, donc il y a une sorte de péricorèse hein, entre les trois vertus aussi et les trois puissances de l'âme. Elles sont distinctes mais inséparables, l'une, elles sont toutes l'une dans l'autre, dans les autres. La vraie vie consiste à vivre d'amour et la voie de la foi est voie de confiance et d'amour. La plus grande des trois est la charité, amour absolu, sur la terre comme au ciel. Troisième composante, la plénitude du cœur humain dans l'amour de Jésus, les quatre cordes du cœur de Thérèse, épouse et mère, enfant et sœur, composante anthropologique. Donc on est justement dans le monde des relations. À son propre cœur de femme, Thérèse applique le symbole de la lyre. Tu fais vibrer de ta lyre les cordes, et cette lyre, ô Jésus, c'est mon cœur. Il s'agit d'un instrument de musique à quatre cordes, comme le violon. Thérèse est par excellence la théologienne de l'âme et du cœur, comme Catherine de Sienne l'est du corps et du sang. En Jésus, toutes les fondamentales relations humaines de la famille sont insérées dans la relation divine de la Trinité. Le Fils éternel du Père est devenu notre frère, fils de Marie et époux de l'Église. Toute femme a un cœur d'épouse et de mère, d'enfant et de sœur, comme tout homme a un cœur d'époux et de père, d'enfant et de frère. La sainteté à laquelle tous sont appelés consiste à aimer de tout son cœur Dieu et l'homme dans le Christ Jésus, en faisant vibrer de façon pleine et juste toutes ces quatre cordes, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le célibat et la virginité. Chez Thérèse, comme chez les deux autres docteurs du Carmel, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, la corde sponsale se trouve à la première place, avec le grand symbole biblique du mariage spirituel entre Dieu et l'homme dans le Christ. C'est l'amour virginal qui intègre et transfigure l'éros comme amour amoureux, exclusif, jaloux, unitif, extatique, Denis l'Aréopagite, que Benoît XVI a pleinement réhabilité. Donc j'ai fait un long article en italien qui a été publié récemment, donc je vous le trouverai aussi dans le dossier pour ceux qui lisent l'italien, donc sur la théologie de Denis. L'amour filial trouve une de ses plus belles expressions dans l'enfance spirituelle. Thérèse découvre pleinement la beauté de l'amour fraternel à la fin de sa vie, dans le manuscrit C. Ces quatre cordes sont présentes dans le cœur de tout homme et de toute femme. Elles sont indestructibles. Mais elles peuvent être très désaccordées par le péché et les blessures de la vie. Elles seront pleinement réaccordées par l'Esprit-Saint à travers les grandes purifications des sens et de l'esprit décrite par Saint Jean de la Croix et beaucoup approfondie par le bienheureux Marie-Eugène, surtout sur la nuit de l'esprit. Quatrième composante, l'amour de Jésus pour moi et pour tous, l'histoire d'une âme et l'histoire du salut, la composante ecclésiologique. Comme Saint Paul, Thérèse expérimente continuellement l'amour de Jésus pour moi, pour nous, pour tous. Son expérience la plus personnelle sous toujours à la totalité de l'Église, sur la terre comme au ciel, dans tous les lieux, dans tous les temps, pour le salut de tous les hommes. Il y a un sens, il y a une expérience métaphysique de l'infini, de la totalité, de l'absolu. Je choisis, tout, je suis le cœur de l'Église, je serai tout. Vous voyez, c'est tout, c'est extrêmement impressionnant dans ces textes. Son espérance va jusqu'à espérer pour tous, un thème qui a été repris par Balthazar. Mais Thérèse l'exprime, elle est meilleure théologienne que Balthazar. L'histoire d'une âme se dilate aux dimensions de l'histoire du salut, dont on avait déjà ça chez Saint Jean de la Croix, dans les romances, les deux premières grandes poésies composées dans le cachot de Tolède, donc les romances, où toujours l'amour de l'époux et de l'épouse, c'est-à-dire de Jésus et de l'Église, mais dans les romances, l'Église est dilatée à toutes les dimensions de l'histoire du salut, de la création et de l'histoire, et dans le cantique spirituel, elle est concentrée, résumée dans l'histoire d'une âme. Alors, même chose, vous voyez, le château intérieur de l'âme, pour reprendre l'expression symbolique de Thérèse d'Avila, s'ouvre toujours dans le château extérieur de la communauté. La servante de Dieu, Chiara Lubich, qui était très amie d'un de nos pères Carmes à Rome, avait beaucoup réfléchi à ce thème de la complémentarité château intérieur de l'âme, de la personne, et château extérieur de la communauté, avec selon les deux grandes modalités de la présence de Jésus, en nous, selon Jean 14, 23, si quelqu'un m'aime, une personne, mon Père gardera ma parole, mon Père, nous viendrons en lui, nous ferons chez lui notre demeure, château intérieur. Et l'autre parole, Matthieu 18, 20, quand deux ou trois, un seul ça ne suffit plus, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc j'ai eu la grâce de travailler pour les causes de béatification des époux, c'est admirable, donc déjà deux couples que j'ai étudiés qui sont vénérables, vous voyez, de voir justement que c'est une des clés pour la sainteté du couple. Et Rome, enfin, la dicastère n'a pas encore élaboré les instruments. Une vision encore trop individualiste, peut-être influencée, je ne sais pas si c'est par Rousseau ou autre, mais la vision, non pas seulement personnelle, mais individualiste de la sainteté. Et nous retournons cette feuille, et alors, vous voyez, je termine avec cela, donc cette adéquatio cordis et rei. Saint Thomas, reprenant la définition de la vérité, selon un philosophe juif, donc adéquatio rei et intellectus, mais là, justement, cette scientia amoris de Thérèse, on peut dire adéquatio cordis et rei, c'est-à-dire oui, la science de l'amour de Jésus, Thérèse qui s'appelle Thérèse de l'enfant Jésus de la Sainte Face, science de l'amour Jésus dans l'incarnation et la rédemption, et la parfaite correspondance dans la foi, l'espérance et la charité, les trois inséparablement. Il ne suffit pas de parler de la foi, je pense, en théologie. Entre la foi, est toujours appelée la charité plus grande, la plus grande des trois. Elle croit tout, elle est l'amour. Je dis ça aussi parce que pour les causes des saints, j'utilise toujours l'expression de saint Thomas, j'ai une centaine de causes déjà depuis une vingtaine d'années, l'expression de saint Thomas, la charité racine, forme et mère de toutes les vertus. Et ça permet de voir le vécu de sainteté sans le découper en tranches. C'est une des difficultés aussi. Donc la correspondance dans la foi, l'espérance et la charité entre les quatre dimensions du mystère de Jésus, Paul nous dit la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Chez Thérèse, ces quatre dimensions sont grandeur et petitesse, lumière et ténèbres. Et les quatre cordes du cœur de Thérèse, donc épouse et mère, enfant et sœur. C'est la connaissance au sens biblique de communion totale, voyez, entre tout l'être de Thérèse et la totalité du mystère de Jésus. Donc, je l'ai représenté, voyez, grandeur de la divinité, petitesse de l'humanité, dans sa condition terrestre, la fleur, la relation entre la lumière de l'amour et les ténèbres du péché et la présence de Marie près de la croix. Donc, je dirais, la théologie des saints est essentiellement dogmatique. Donc, vous voyez, Thérèse, l'histoire d'une âme, dont je ne me sépare jamais, est un des plus beaux livres dogmatiques, justement, faisant resplendir la totalité du mystère de la foi chrétienne, Jésus comme centre, d'une façon très unifiée et très originale. Donc ce symbole représente les principales réalités réunies dans le mystère de Jésus, Verbe incarné et rédempteur, le Dieu-homme crucifié, Deus Homo, Saint Anselme. La ligne verticale qui unit la grandeur et la petitesse correspond au mystère de l'incarnation. C'est l'union sans confusion entre la grandeur de la divinité et la petitesse de l'humanité dans la personne de Jésus, Chalcédoine. La ligne horizontale correspond au mystère pascal de la rédemption. C'est la rencontre dramatique entre la lumière de l'amour et toutes les ténèbres du péché du monde dans la passion et la résurrection de Jésus. Dans le mystère de l'incarnation, le Fils de Dieu a épousé la petitesse de notre humanité. Puis dans le mystère de la rédemption, il s'est abaissé plus encore en épousant la plus grande misère de notre humanité, c'est-à-dire en se chargeant de notre péché, dans sa souffrance et dans sa mort. Le propre de l'amour étant de s'abaisser, écrit Thérèse au début du premier manuscrit. Marie est intimement présente au mystère de l'incarnation et de la rédemption. Alors ça, c'est l'aspect objectif. Alors l'aspect subjectif, c'est en réponse à cet amour que Thérèse, exactement comme François d'Assise, a épousé successivement ces deux mystères de l'incarnation et de la rédemption, en embrassant ces extrêmes de petitesse et de grandeur, de lumière et de ténèbres. Car la petitesse thérésienne est toujours en relation intime avec la grandeur infinie, de même que les profondes ténèbres qui caractérisent sa passion sont en même temps habitées par la plus merveilleuse lumière, la lumière de l'amour de Jésus. Thérèse communie au double admirable échange qui caractérise l'incarnation et la rédemption. Dans l'incarnation, Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Puis dans la rédemption, celui qui était sans péché est pour nous devenu péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Deuxième lettre aux Corinthiens. Ah oui, ceci est important parce que le Père Marie-Eugène parle de façon admirable des antinomies du mystère de Jésus. Tout ça, on parle de la petite sainte. Je ne connais pas une sainte qui exprime autant la grandeur que Thérèse de Lisieux. Justement, je serai tout. Jésus l'a bien dit, donc celui qui se fera le plus petit est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et pour Thérèse, si Marie est la plus grande, c'est parce qu'elle était la plus petite. Elle se lamente des prédicateurs de son temps qui avaient oublié le principal privilège de Marie dans sa vie terrestre, c'était la petitesse évangélique. Donc dans la vie et les écrits de Thérèse, il convient de noter les points essentiels. On va justement comment, parce que sa théologie est une théologie donc mystique, symbolique, elle utilise principalement le langage symbolique, et narrative, et on voit vraiment justement cette manière de progressivement, vous voyez, de connaître, d'embrasser la totalité du mystère de Jésus. 1886-1887, la grâce de Noël et le salut du criminel Pranzini, premier enfant de Thérèse. Alors dans les documents, je laisserai justement, j'ai fait un certain nombre de choix de textes essentiels, les plus denses du point de vue théologique de Thérèse. Celui-ci est un des plus importants. Une double grâce fondatrice avant l'entrée au Carmel, qui la situe déjà près de la crèche et de la croix, dans une profonde communion à l'incarnation et à la rédemption, comme épouse et mère, mon premier enfant, je voulais donner à boire à mon bien-aimé, dans une espérance sans limite en la miséricorde infinie de Jésus. Tant j'avais. Donc Jésus lui donne comme premier enfant le cas le plus désespéré, un criminel qui a fait des crimes abominables, qui ne se repent pas, qui va mourir. Vous voyez. Elle dit toute la vérité. Je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Et la manière juste de parler, justement, de l'enfer. Hein. Mais il n'ira pas. Et alors, 1893, Thérèse épouse pleinement la petitesse de Jésus dans tous les mystères de sa vie terrestre. Les deux textes essentiels sur la petitesse évangélique sont sa première poésie et une lettre à Céline, qui est un chef-d'œuvre de théologie symbolique, donc toujours à partir de l'écriture, avec les mêmes symboles de la fleur, qui est ici appliquée à Jésus, comme enfant et époux, hein, dans tous les mystères de sa vie terrestre, et de la rosée, symbole l'amour de sa mère et de son épouse. L'amour filial sera ensuite exprimé principalement avec le symbole de l'enfance. Le cœur que Jésus désire, écrit Thérèse dans une de ses lettres de 93, est un cœur d'enfant, un cœur d'épouse. 1895, Thérèse épouse pleinement la grandeur de Jésus en sa divinité, dans la Trinité. Hein, c'est l'offrande à l'amour miséricordieux qu'elle commente dans les dernières pages du manuscrit A. Et enfin, en 1896, lors des fêtes pascales, Thérèse entre dans sa passion, devenant pleinement l'épouse de Jésus crucifié. C'est dans les plus épaisses ténèbres qu'elle décrit au début du manuscrit C, aussi c'est formidable. C'est l'épreuve de la foi qui n'est pas la lutte d'esprit selon saint Jean de la Croix. Elle la met immédiatement en rapport avec l'athéisme de son temps. Jésus permit que mon âme fût envahie par les plus épaisses ténèbres. Alors, un de mes étudiants à Rome a fait une thèse splendide, un Vietnamien qui avait passé, son père spirituel était le cardinal Van Thuan, vénérable cardinal Van Thuan, un de mes clients, j'ai travaillé pour sa béatification. Et donc cet excellent prêtre, qui est maintenant supérieur d'un séminaire au Vietnam, donc a fait sa thèse justement sur la kénose de la foi chez Thérèse de Lisieux. Alors vous savez, quand on dirige une thèse, finalement l'étudiant qui creuse la question, il apprend beaucoup de choses au professeur aussi. Et donc Thérèse a été littéralement empoisonnée par les écrits diaboliques de Léo Taxil. Des écrits apparemment édifiants, en fait pervers. C'est écrit de la fameuse Diana Vaughan. Et donc, il y avait un message subliminal. Ça correspond au moment. Donc, Jésus a permis qu'elle soit, permis que mon âme, elle ne dit pas qu'il a fait, il a permis. Dieu permet le mal pour un plus grand bien. Le langage de Thérèse est toujours extrêmement précis, simple, mais elle emploie toujours le mot juste. Et donc, Jésus a permis que les ténèbres de l'athéisme moderne, par un jeu pervers de personnel diabolique, entrent dans les profondeurs de son âme, et ça va rester jusqu'à la fin. Alors, elle ne doute jamais. C'est l'acte de foi continuellement renouvelé. Je chante ce que je veux croire, et en même temps, elle expérimente dans son propre cœur les voies de la négation et du néant. Et alors, ceci donc est extrêmement important, et pensez que justement Thérèse vit dans les dernières années du XIXe siècle, qui a été le siècle d'or de l'athéisme moderne. Donc, avant elle, il y avait Marx, il y avait Nietzsche, il y avait le matérialisme, etc. Donc, ça, c'est un phénomène que j'ai souvent étudié, que les saints portent la réalité de péché la plus caractéristique de leur temps. J'ai beaucoup étudié Catherine de Sienne, vous voyez, donc la grande crise de l'Église, quand elle meurt, le grand schisme est déjà arrivé, donc, et les deux dernières années de sa vie, ce drame qu'elle vit avec une intensité extraordinaire, ce grand schisme qui va durer une quarantaine d'années, et qui, justement, l'unité de l'Église, à quelque manière, a disparu. Et alors, on voit très bien comment Catherine de Sienne porte le péché, non pas de l'Église, mais dans l'Église. Et elle dit « La douce épouse du Christ est lépreuse. » Alors, elle retrouve toujours sa beauté, sa pureté dans le sang de Jésus. Donc, Thérèse, 1896, donc, elle entend sa passion dans les plus épaisses ténèbres. Mais alors, voilà, plus il y a des ténèbres, plus la lumière est forte, puissante et belle. La lumière de l'amour manifeste toute sa splendeur. Toujours ces fameuses antinomies du Père Mariogène. Plus on descend dans la petitesse, plus on expérimente la grandeur, plus on vit dans les ténèbres, et plus la lumière, justement, cette lumière qui, dans la passion et la résurrection de Jésus, a vaincu toutes les ténèbres du péché du monde. Donc, il y a alors surtout ce manuscrit B qui contient son ecclésiologie. Et Thérèse découvre pleinement la corde fraternelle de son cœur, le manuscrit C, et elle devient sœur universelle pour les plus proches, les sœurs de sa communauté, et les plus lointains, les athées. Voilà donc ce que je voulais un peu partager. C'est extrêmement synthétique, vous voyez, mais je crois que vraiment c'est ça, que Thérèse est une très grande théologienne, à mon avis la plus grande, mais justement, si on la lit en dialogue avec Thomas d'Aquin, avec les autres aussi, avec le père de l'Église, eh bien, on peut voir justement toute l'importance et de penser qu'elle passe très bien. Alors quand même, vous voyez, toutes nos discussions, je pense que je vis à Rome depuis 41 ans, je pense quand même on est quand même très dans le monde occidental. C'est normal, on vit dans ce monde. Mais je dirais, par exemple, les Africains, vivent une réalité assez différente. Ils ont d'autres problèmes aussi. Voyez. Et alors Thérèse, eh bien, voilà, elle passe absolument partout. Docteur de l'Église et patronne des missions. Voilà.